Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h02.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
4 ans après la famille Bélier, Louane est de retour dans un premier rôle au cinéma. Elle est à l'affiche de la comédie musicale Les Affamés. Stéphane Boudsocq l'a rencontrée. On écoute la chanteuse comédienne dans un tout petit instant. La musique, on découvrira notamment l'univers du bluesman américain Fantastic Negrito. Il nous racontera son étonnant parcours au micro de Steven Bellery. Nous n'oublierons pas nos express du jour avec Anthony Martin. Et puis à la télévision, ce soir, France 3 rend hommage à Simone Veil. 4 jours avant son entrée au Panthéon, en diffusant Simone Veil, album de famille, un documentaire intime exceptionnel. Isabelle Morini-Bosque nous en proposera des extraits en avant-première.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Nous parlons donc cinéma pour commencer avec vous, Stéphane Boudsocq, bonjour.
Bonjour à tous.
Il n'y a que 9 nouveautés à l'affiche cette semaine. Faut-il y voir l'effet Coupe du Monde de football ? Et est-ce que ce mondial 2018 en Russie a des effets concrets sur notre box-office ?
C'est en Russie, donc c'est carrément la Bérézina côté box-office, d'après les chiffres de nos amis du site cbo.fr. Fréquentation en chute libre. Côté nouveauté, l'excellent thriller horrifique Sans un bruit sauve les meubles. 220 000 entrées, mais le doudou, la comédie, pourtant taillée pour le succès avec Khan Merad et Malik Bentala, échoue autour des 130 000 spectateurs seulement. L'échec est terrible pour Bécassine, 60 000 spectateurs. En fait, ce sont les dinosaures de Jurassic World qui s'en tirent le mieux. 2,5 millions d'entrées quasiment. Je précise que la fête du cinéma va peut-être arranger les choses. Ça commence dimanche jusqu'au mercredi d'après. 4 € la séance à volonté.
C'est donc avec une certaine appréhension, j'imagine, que les films de ce 27 juin vont sortir. Oui, vous commencez, Stéphane, par le retour de Louane sur grand écran dans un film qui s'appelle Les Affamés, réalisé par Léa Frédéval.
C'est une comédie sociale qui, sur le papier, ressemble à des choses qu'on a déjà vues. Un groupe d'étudiants colocataires essaye de trouver sa place dans la société. Le vrai plus du film, c'est que l'histoire aborde un sujet générationnel qui touche des millions de jeunes, mais qui est encore assez tabou. Ils sont obligés, ces jeunes, de travailler pour payer leurs études. Ils n'ont pas assez de sous pour s'assumer seuls. Et en plus, sont baladés de contrats précaires en stage à répétition. Zoé en a assez. Elle décide de sortir ces invisibles du système social français de l'anonymat et de créer ce qu'elle appelle la charte des affamés. C'est donc Louane Emera qui incarne cette jeune fille passionnée et rebelle. 4 ans après la famille Bélier, la chanteuse comblée ne veut pas oublier ceux de sa génération qui ont moins de chance qu'elle.
C'est vrai que c'est une étape, c'est différent. Je suis très contente qu'on me parle de ce sujet qui est la précarité de la jeunesse en France. Par chance, j'ai pas eu à le vivre. Par chance, j'ai eu une vie qui a été complètement chamboulée, qui a fait que j'ai jamais été dans la situation ou dans les situations des personnages du film. En revanche, c'est effectivement des situations que je connais et que j'avais envie de défendre de par mes valeurs personnelles et de par les gens qui m'entourent, que ce soit les gens de ma famille, que ce soit mes amis qui peuvent vivre ce genre de situation, tout simplement.
Alors, sur disque, sur scène ou au cinéma, Louane est en pleine lumière, mais elle m'a avoué que l'idée que tout pouvait s'arrêter aussi vite que tout a commencé lui traversait encore l'esprit.
J'ai des plans B parce que je suis dans un milieu qui est très compliqué. Je fais un métier qui est assez rare et qui peut être très, 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 très éphémère. Donc, effectivement, j'ai d'autres idées si jamais ça devait s'arrêter. Après, je touche du bois, j'en ai pas envie, mais j'en ai plusieurs. J'aimerais ouvrir un bar, j'aimerais monter une galerie d'art, j'aimerais faire de la déco d'intérieur, j'aimerais faire plein de choses. Ou de la radio, j'aimerais faire de la radio aussi. Appel à candidature, si jamais ça s'arrête. Hein.
Appel entendu, on note, hein, on garde, on sait jamais.
Donc on souhaite que ça continue.
Ouais, pour l'instant, donc Louane est à l'affiche du film Les Affamés à partir d'aujourd'hui, en tournée jusqu'à la fin de l'année. Autre film qui traite de la fin toujours compliquée de l'adolescence, Love, Simon de Greg Berlanti. Simon, donc Simon, ado entouré d'amis fidèles et d'une famille aimante. Mm-hmm. Il est en train de découvrir l'amour. Ah. Bien entendu, c'est compliqué. Petit détail, Simon est gay et la situation est encore un petit peu plus compliquée. Film formidable, de fraîcheur, de drôlerie et de tendresse qui ne perd pas de temps, vous savez, comme souvent, à explorer les doutes identitaires du personnage principal. Un garçon qui aime les garçons, l'essentiel est ailleurs, heureusement. Comment réussir sa première histoire d'amour ? Et là, croyez-moi, ça parle à tout le monde.
Comédie encore, mais française celle-là, Stéphane, c'est Budapest, hein, de Xavier Jans. Je prononce bien son nom.
Jans, savez-vous ce qu'est une EVG ?
Pas du tout. Enterrement de vie de garçon.
Exactement. Oui. Eh bien, le VG, c'est l'activité de Vincent et Arnaud, deux potes issus d'une prestigieuse école de commerce qui plaquent tout pour se lancer dans l'organisation de fêtes d'avant-mariage à Budapest, capitale de la Hongrie. Mais attention, pas n'importe quelle fête. Alcool, stripteaseuse, balade en char d'assaut, tir à la Kalachnikov, rien n'est tabou, tout est permis. Et en plus, c'est tiré d'une histoire vraie, cette histoire. Jusqu'au jour où, évidemment, Vincent et Arnaud vont perdre le contrôle des choses. Budapest est un film sur l'amitié qui se perd parfois dans un côté clipesque assez agaçant, mais porté par d'excellents comédiens, notamment le duo Manu Payet-Jonathan Cohen, à qui j'ai évidemment demandé leur propre souvenir d'enterrement de vie de garçon. C'est Manu qui commence, parce que pour les besoins du film qu'il a co-écrit, il a tout testé.
Je suis parti un week-end, j'ai testé toutes les activités, je suis monté dans des véhicules militaires très impressionnants, j'ai été menotté à une femme très forte, dans tous les sens du terme, dans une boîte de nuit, pendant très longtemps, qui me forçait à boire de la vodka sur ses seins, c'est la vérité. Mais je me suis dit, l'écriture de ce film va être compliquée parce que déjà j'ai oublié la moitié du week-end que je viens de vivre. Le seul truc que j'ai réussi à refuser, et qui pourtant fait partie des véritables activités, c'est de me faire attaquer par un chien enveloppé dans un matelas. Alors ça, non, j'ai dit là, c'est... Non,
non. Ça, ça existe et on le voit dans le film. Non, ce sont des options, si vous voulez. Vous pouvez
prendre d'autres choses. L'option matelas.
L'option chien matelas. Du côté de Jonathan Cohen, c'est un petit peu différent.
C'est énormément plus calme. Le seul EVG que j'ai fait, c'était il y a 2 ans pour un de mes meilleurs potes. Et on est parti à Stockholm et on a visité le musée de la photo. Voilà. Fin de l'histoire. Non, c'est une vraie fin de l'histoire.
Tous les auditeurs attendent la fin.
Non, c'est la fin de l'histoire. Ah, et du coup, on a bu des mojitos à l'hôtel. Après, je crois qu'on s'est baladé dans la ville de Stockholm.
Il y en a un qui a pris une verveine, tu m'avais dit.
Oui, mais ça, c'est vraiment à 11h pour le coup. Non, dans la journée, on se baladait et on prenait des belles photos.
Jonathan Cohen, Manu Payet, mais aussi Monsieur Poulpe, qui n'oublie jamais d'en faire
Mister
trop.
Poulpe.
Ou l'excellente Alix Poisson, vous savez, celle de Parents Mode d'emploi.
Normal,
ou encore Alice Bailaidi, voilà, ravissante. Tout
même,
découvrez toute cette bande-là dans Budapest. Ça sort donc en salle aujourd'hui.
Bon, 2 autres nouveautés.
Oui, je vous rappelle la sortie du très étrange et déroutant Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez avec Vanessa Paradis, film d'amour et d'horreur. On en parlait lundi. Et puis, pour les amateurs de thriller, ben vous serez ravis. Le retour de Sicario, cette fois La guerre des cartels avec Benicio del Toro et Josh Brolin, suite du formidable Sicario de Denis Villeneuve, c'était sorti en 2015. Cette fois, les services secrets américains décident de semer le chaos au sein des trafiquants de drogue mexicains en utilisant leur méthode. Ils font enlever la fille d'un parrain local. La violence appelant la violence, l'opération évidemment va tourner au fiasco. Alors c'est formidable pendant 1h30, haletant, sans fioritures, mais malheureusement, ça tourne un petit peu au grand guignol sur la fin et c'est un petit peu dommage.
Merci Stéphane Boots. Les audiences télévisées avec Isabelle Morini-Bosque et nos camarades de Médiamétrie, Isabelle.
Exactement. Mm-hmm. Eh bien, 8 700 000 fans ont été devant le match France-Danemark à 16h sur TF1
On
hier.
A bien dormi.
Pic à 9 millions. Vous dormiez déjà, oui. Yves, au moment du pic. Et hier soir, eh bien, ils étaient encore 6 600 000 sur TF1 toujours, devant Nigeria-Argentine, soit 30% des téléspectateurs. Le deuxième, c'est Tandem, qui rassemble toujours brillamment 3 700 000 fidèles hier. Alors, côté foot, on peut également souligner les bons scores de Bein Sport, qui retransmet tous les matchs, on le sait, et qui peut se vanter de plus d'un million de fidèles de moyenne. Pic à 1 520 000 pour Iran-Espagne, soit quasiment plus 50% par rapport à la Coupe du Monde 2014.
Dans quelques instants, nous parlons musique avec Steven Bellery, va nous présenter son nouvel ami Fantastique Negrito.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Autant dire que c'est l'heure du journal musical de Steven Bellery. Bonjour Steven.
Bonjour à tous.
Et on va commencer par une collection de reprises de tubes de l'été à la sauce pop.
Oui, initiative de la plateforme de streaming française Deezer. Pour la première fois, elle a produit tout un album. 19 jeunes talents de la nouvelle scène revisitent des succès estivaux. Il y a du très bon et du cocasse. Voici une des réussites. Juliette Armanet reprend une chanson interprétée par Mélodie en 1989. Il n'y a pas que les grands qui rêvent.
Sur la vitre qui ruisselle, la terre me paraît si belle. Je donne cet orage au désert, les neiges éternelles sur le cœur. J'offre les jardins de Babylone à ce garçon pour qui mon cœur frissonne. Grandis pas trop vite, attends-moi, je sais qu'un jour. Sentiments, c'est comme une enfance qui s'est...
bonne reprise, le groupe Bébé Brune a jeté son dévolu sur Duel au soleil d'Étienne Daou. S'intitule Souvenir d'été en écoute sur la plateforme Deezer.
Un coup de cœur à présent pour le chanteur américain fantastique Negrito. Alors l'an dernier, il remportait un Grammy Award. Il vient de sortir son troisième album studio intitulé Please Don't Be Dead. Steven, vous avez rencontré ce bluesman à l'incroyable parcours.
Oui, fantastique Negrito a 50 ans, mais déjà 1000 vies et plusieurs pseudonymes. Celui-ci est un hommage au bluesman du Mississippi. Ce grand barbu au look excentrique dandy, au costume coloré, est un survivant et un chanteur épatant. Avant d'évoquer son destin, écoutons sa voix, voici Bad Guy Necessity. L'opus de Fantastic Negrito est une formidable odyssée blues et vintage. Il a joué 7 basses différentes sur les 11 titres du disque, musicalement inspiré par l'année 1968, celle de sa naissance et d'Electric Ladyland de Jimi Hendrix. Fantastic Negrito vit aujourd'hui en Californie où il fait pousser des légumes et de la marijuana entre l'écriture de deux chansons. J'ai rencontré Fantastic Negrito qui revient pour RTL sur son parcours atypique.
Il y a une fac dans ma ville, Berkeley University. Je m'y faufilais en douce, je prétendais être un étudiant et j'assistais aux cours de musique. J'y ai tout appris. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, j'ai joué de tous les instruments. C'était le début de mon éducation musicale. La musique a toujours eu un incroyable impact sur moi. Quand j'ai eu 12 ans, ma famille a déménagé à Oakland, en Californie. J'ai découvert dans la rue le hip-hop et le punk. Je ne suis jamais rentré chez moi. Mon père est mort sans que je puisse le revoir. C'était si puissant. À mes 20 ans, je voulais devenir une pop star. Je voulais des tas de filles, la drogue, les villas et les voitures. Et je dis de moi que je suis un narcissique guéri. Je crois que tout ce que l'on vit nous prépare à la prochaine étape. J'avais besoin d'être un fugueur, j'avais besoin de vivre dans la rue, de devenir un dealer, d'être arrêté, d'aller à Los Angeles, d'essayer de devenir une star. J'ai même signé un contrat de 1 million de dollars. Et j'ai eu un accident, 3 mois de coma, une main bousillée. Ça devait se passer pour en arriver ici.
Le morceau A Cold November Street, extrait du nouvel album de Fantastic Negrito, dont la pochette est illustrée par une photo de l'artiste à l'hôpital en 1999 après son accident, les deux bras dans le plâtre.
Alors avec ce disque, c'est aussi la découverte d'une plume acerbe hein, sur la société américaine.
Oui, Fantastic Negrito n'a peur de rien dans cet album où il met en scène l'Amérique bousillée mais pas foutue selon ses mots. Son mélange punk, blues, hip-hop et soul est ponctué de textes forts sur les pilules qui tuent Prince et Michael Jackson, la discrimination, le racisme, un vieil homme qui est parfois une femme. Un dernier extrait peut-être, un poil énervé. Bullshit Anthem. Negrito, son album Please Don't Be Dead.
Parce que vous êtes intime avec lui, maintenant vous l'appelez Fantastique, puisque c'est son prénom.
Voilà. C'est pas son prénom, il s'appelle son...
Ah bah si, Fantastique, c'est
il vrai. A eu
prénom Fantastique, nom de famille, Negrito.
Son contrat à 1 million
Monsieur
dollars,
Negrito,
il s'appelait Xavier, tout simplement.
Ah bah voilà. Bon, bah en tout cas, c'est une découverte, même si on a un peu l'impression qu'il repompe sa musique chez d'autres copains, mais on a passé un très bon moment. On passe à nos express.
Les express LVT.
Avec Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À jamais des légendes, c'est le titre en une du journal régional La Provence, ce matin pour saluer le concert des Rolling Stones, c'était hier soir à l'Orange Vélodrome, autrement dit le stade de l'OM.
Oui, 2 heures de show devant 58 000 fans. Est-ce que vous kiffez à lancer Mick Jagger dans sa chemise lila pendant le concert? Réponse des spectateurs à la sortie du stade.
Ils sont extraordinaires, c'est les meilleurs. On se rend pas compte de leur âge. Ils ont du punch, ils ont tout ce qu'il faut. Un grand moment.
Super ambiance, ils sont intergénérationnels, c'est vraiment fantastique ce qu'ils font. Ah, ils sont fidèles à eux-mêmes, ils sautent partout, ils courent partout, ils chantent très fort, ils ont la forme. Pour tourner comme ça, ils ont une certaine forme.
C'est vraiment comme le titre de leur tournée, No Filter. Il n'y avait pas de filtre. Ils étaient resserrés, ils ont bien joué à fond. C'était un groupe soudé. On a vraiment du bonheur. En fait, là où les autres vous donnent juste des bons moments, eux, ils vous donnent du bonheur, c'est ça qui est bien.
Voilà les chanceux spectateurs qui ont pu applaudir les Rolling Stones hier soir à Marseille au micro RTL de Cléo Rebaud. Pas d'autres dates en France pour les Stones, c'était leur 4e passage à Marseille en 56 ans de carrière.
Alors, il y a les pierres qui roulent toujours et puis il y a les vieux groupes qui se reforment, dis donc.
Oui, Ray Davies, l'ex-chanteur des Kings, groupe phare du rock des années 60, a laissé entendre à la télé anglaise que le groupe pourrait bien se reformer plus de 20 ans après sa séparation en 96. Les Kings, c'était ça, bien sûr. Mais nous avons travaillé en studio, on fait un nouvel album des Kings, a dit le chanteur, avant d'ajouter, ça c'est drôle, ce sera pas aussi bien organisé que les Rolling Stones, on jouera probablement dans le bar du coin.
Oui, on va passer au rayon livre. Que donne cette semaine le palmarès des meilleures ventes avec RTL et le magazine L'Express, Anthony?
La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso reste numéro 1, à la 2e place remontée de la disparition de Stéphanie Meyler de Joël Dicker, et à la 3e entrée, dès sa semaine de parution de L'Enfer de l'amour, l'une des deux nouvelles enquêtes d'Agatha Raisin, la détective anglaise et loufoque que nous présentait Bernard Lehu avant-hier. Pour preuve supplémentaire de l'engouement des lecteurs français pour Agatha Raisin, l'autre nouvelle enquête de la détective Crime et déluge se classe 5e derrière Une fille comme elle de Marc Lévy. Du côté des essais et documents, Un été avec Homer de Sylvain Tesson est toujours en tête.
Parfois, c'est à se demander si Bernard Lehu ne fait pas les ventes lui-même.
Oui.
Alors,
le palmarès qu'il achète. En fait.
Oui, c'est ça. Le palmarès complet à retrouver dans les colonnes de l'Express. Alors, dans l'actu média, on connaît le nom de celui qui succédera à Yann Moix au poste de chroniqueur dans l'émission de France 2, On n'est pas couché.
Oui, un nouveau venu que l'animateur Laurent Ruquier recevait comme invité dans On n'est pas couché il y a un peu plus d'un an, le 3 juin 2017. Écoutez.
Accueillons un écrivain, jeune avocat, Charles Consigny. Non, on n'est pas couché. Bienvenue, Charles.
Voilà, le multicarte Charles Consigny, c'est lui qui officiera à la rentrée comme chroniqueur le samedi soir à 23h sur France 2 dans On n'est pas couché aux côtés de Christine Angot. Laurent Ruquier fait donc le pari de la jeunesse. Charles Consigny a 28 ans. Il sera ainsi le plus jeune à occuper ce poste depuis la création de l'émission. Quant à Yann Moix, je parle sous le contrôle d'Isabelle, et bien il rejoindra dès le mois de septembre Thierry Ardisson dans l'émission Les Terriens du samedi sur C8. Il décernera chaque semaine ses Moix d'or.
Voilà qui est dit.
Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Non, mais c'est des Moix d'or.
C'est des Moix qui sont trophées. Voilà. C'est des petits trophées, je pense. Bah, ça tombe bien parce que la télévision va y revenir dans quelques instants avec Mademoiselle Morini Bosque. A tout de suite.
RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
Isabelle, 2 inédits ce soir. D'abord Cauchemar en cuisine sur M6.
Sur M6, c'est dans un restaurant de Paray-le-Monial. C'est savoureux. Enfin, l'émission, hein, pas
d'accord.
Les plats.
L'autre inédit, c'est un documentaire consacré à la vie de Simone Veil, à quelques jours de la cérémonie d'entrée au Panthéon, donc de Simone Veil et de son époux Antoine Veil.
Oui, tout a été dit sur cette femme exceptionnelle, adulée pour son action humaniste et pour sa personnalité. On admire son vécu, le fait qu'elle ait survécu. Et la première intelligence de ce doc, c'est de raconter Simone Veil en faisant simple, c'est-à-dire en respectant la chronologie et en donnant seulement la parole à ses proches, à ses fils, Jean et Pierre-François, qui nous offrent l'intimité de leur mère et de leur famille. C'est absolument formidable. La voilà donc, petite fille, bourgeoisement heureuse à Nice, formidable image d'archive. Hein. Fille d'un architecte et d'une mère au foyer magnifique, qui leur répète qu'une femme doit être indépendante. Fait majeur, Simone Veil le rappelait, ils sont profondément républicains, donc laïcs.
S'il n'y avait pas eu la guerre, qui a fait revivre un certain nombre de sentiments, d'attachement à un groupe, sans doute où moi-même aurais-je complètement oublié que j'étais de famille juive.
Mais dès la crise de 29 qui oblige la famille à changer de quartier, Simone découvre l'inquiétude qui ne la lâche plus, notamment bien sûr à partir de 1939. La suite et les arrestations lui donnent raison avec les camps où sa beauté émeut tellement une matone qu'elle lui évite la mort à elle, à sa mère et à sa sœur Milou. C'est la lutte pour survivre dans l'espoir de vivre avec la longue marche ordonnée en 1945 par les nazis qui veulent que les survivants meurent d'eux-mêmes sur la route.
Nous avons marché, plus de 24 heures Là aussi, il fallait avoir le courage, si c'est un courage ou un égoïsme, de ne pas chercher à sauver les autres. Moi, j'ai le souvenir, en marchant, d'avoir senti quelqu'un qui s'accrochait à moi et d'être si fatiguée, si épuisée, de ne pas m'en défaire, enfin, de supporter ce poids, mais d'entendre quelqu'un derrière moi décrocher cette personne et dire, en s'accrochant comme ça, ce sont les deux qui tombent.
Voilà, c'est ensuite la souffrance d'être vivante quand les autres ne le sont plus. Son père, son frère, sa mère, puis sa sœur adorée qui meurt en 52 dans un accident avec son mari et son fils. Entre-temps, Simone s'est bien mariée à un énarque centriste, lui ayant donné trois fils. Trois fils qui devraient, selon lui, suffire largement à l'occuper.
C'était un vrai conflit dans le ménage, parce que pour moi, c'était tout à fait fondamental de travailler. Et pour lui, l'idée que je sois avocate était tout aussi insupportable. Alors nous avons cherché un compromis.
Il y avait deux choses. Le fait que papa, sur le plan des principes, trouvait que trois enfants à la maison, il y avait de quoi s'occuper. Et puis, il avait ce mépris peuvent avoir les fonctionnaires ou que pouvaient avoir les fonctionnaires pour les avocats. Les avocats, c'est les complices de leurs clients, des gens absolument infréquentables. Et il n'envisageait pas du tout d'avoir une femme qui vient défendre des criminels, des délinquants, des voyous, des fraudeurs fiscaux. Ça lui paraissait être totalement incongru. Franchement, qu'est-ce qu'on va aller fréquenter des malandrins?
Ça tombe bien, puisqu'en plus, deux de ses fils sont devenus avocats.
Absolument. Alors elle sera donc magistrate et redresseuse de tort en prison. Ses fils se souviennent, ça me fait beaucoup rire, de cette période expérimentale.
C'est l'époque où l'administration pénitentiaire faisait, entre guillemets, des expériences, essayait de faire travailler des détenus en semi-liberté dans la journée. Maman s'était évidemment portée volontaire. Donc quand nos grands-parents ont appris que tous les jours, des peintres ou des menuisiers venaient faire des travaux qui étaient en plus inutiles, arrivaient tous les matins à la maison, le gardien s'installait à la cuisine avec un mégot entre les lèvres et puis surveillait les trois autres qui peignaient ou qui faisaient de la menuiserie. Tout ça au milieu de ces charmantes têtes blondes qui venaient avec un camion
de l'administration pénitentiaire. Ce qui ne manquait pas de surprendre les voisins.
Notre grand-mère paternelle trouvait ça tout de même un peu excessif.
Voilà, à la direction des affaires civiles en 68, elle lutte pour l'égalité homme-femme, c'est pas gagné.
Je revois, alors qu'elle a fait passer un texte sur l'égalité des biens, maman allant ouvrir un compte en banque et se heurtant au directeur d'agence et les éclats de voix, disons, de maman absolument ulcérée qu'on lui demande d'apporter l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte en banque.
Voilà. On croit alors que son mari Jean souffre d'être le prince consort, si j'ose dire, eh ben on a tort.
Quand je sors, au fond, mon mari aime assez ça. Il s'y sent à l'aise, il s'est toujours senti à l'aise partout. Et moi, je me sens toujours gauche, pas à ma place, pas coiffée, pas habillée, pas comme il faut, ne disant pas ce qu'il faut non plus. Enfin, c'est sans plaisir que de toute façon, je m'extériorise.
Voilà, donc illégitime, oui. Mais on adore surtout, honnêtement, les confidences familiales de Jean et Pierre-François, notamment sur la rivalité père-fils, pour avoir l'exclusivité de la tendresse et de l'intérêt maternel. Et Pierre-François se souvient de cet appel paternel en 1974, alors qu'il est en vacances.
Papa me dit, le Premier ministre a appelé ta mère hier, il lui propose d'être ministre de la Santé. Il ajoute, elle sera la seule femme ministre de ce gouvernement. Après quoi, il me passe maman, qui me dit, de toute façon, ça ne durera pas plus de 8 jours. Je vais bien faire une connerie qui ferait que je serais viré. Donc non.
Exactement. Et c'est le début de sa véritable carrière, de sa lutte pour l'IVG, la construction de l'Europe, la suite sur la 3 de ce magnifique doc sur une femme qui a su tout révolutionner sans faire la révolution.
C'est sa première diffusion ? Je vous le dis franchement, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu.
Non, vous avez déjà vu la longue interview de Simone Veil qui a été redécoupée. Mmh. Mais en revanche, les témoignages des filles sont absolument inédits. Et donc, les anecdotes sont vraiment très, très riches. Ça, c'est du jamais entendu. Et
c'est exactement ce qu'ils nous ont expliqué à ce micro dès lundi matin. Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosse. Dans un instant, on va se séparer et accueillir Julien Courbet. Dans les deux cas, c'est assez normal.
Mmh. RTL Matin. Laissez-vous tenter.
Mais c'est
mais oui, ça nous a surpris.
Ah ben oui, on s'est laissé surprendre. Bon, bah très bien. Alors merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter et bienvenue à Julien Courbet qui chausse avec beaucoup d'élégance, comme d'habitude, bonjour, son casque. Ah oui, vraiment.
Merci. Écoutez, c'était, voilà, je prends des cours de maintien, de casque, etc. Oui,
vous avez un côté
Rothschild
gracieux comme ça.
Tout à fait. Mais j'essaie de plus en plus maintenant, oui, de par mes nouveaux rôles qui m'attendent, de m'habiller. De,
certaine dignité.
Oui, une certaine dignité.
Jeune et jolie à 50 ans.
Voilà,
exactement. Une entrée dans la fonction.
Exactement. Eh bien, écoutez, voyez, je trouve que nous avons fait un échange de bonne tenue aujourd'hui.
Oui, voilà, c'était docte.
C'est de bon augure, oui, pour la saison prochaine. Absolument. J'ai l'impression que le niveau va enfin, comme l'équipe de France, je l'espère samedi, être un peu rehaussé.
Vous écoutez RTL.